Écoutez le monde changer. 15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Et tout l'été sur Europe 1, Mélanie Gomez vous propose les meilleurs moments de votre émission Bien-être et Santé avec les conseils qu'il ne fallait pas manquer. Aujourd'hui, on s'intéresse à la transpiration, à quoi ça sert et quelles sont les solutions thérapeutiques pour les personnes qui souffrent d'hyperhidrose. La dermatologue Laurence Netter nous donnera toutes les réponses avant 16h. Mais d'abord, ouvrons le premier dossier du jour sur cet organe au pouvoir extraordinaire, le rein. Pour en parler avec nous, le professeur Gilbert Deray, chef du service en néphrologie à la Pitié Salpêtrière. 15h-16h, vous écoutez Sans Rendez-vous sur Europe 1.
15h-16h,
Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Deray.
Bonjour.
Alors, votre livre, il affiche la couleur tout de suite. Le titre, c'est « Les pouvoirs extraordinaires du rein ». Je ne pensais pas que le rein, c'était si extraordinaire que ça. En tout cas, dans notre tête, à nous, les gens lambda, le rein, c'est juste un filtre à pipi, non ?
Absolument. Alors qu'en fait, le rein, c'est un organe absolument très sympathique, intelligent, généreux, connecté, et qui ne fait pas du tout que des urines. Alors d'abord, pour ce qui est des urines, bien sûr qu'il les fabrique, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait descendre de son piédestal. On se souviendra que le rein, dans la Bible, c'est l'organe qui abrite la sagesse et l'âme et l'intelligence. C'est pour ça qu'on dit « Dieu te jugera en sondant tes reins ». Mais évidemment, quand on s'est aperçu qu'il fabriquait l'urine, il est sorti donc de ce piédestal. Alors, pour ce qui est des urines, non seulement il la fabrique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est extrêmement intelligent et hyper connecté. Il est en permanence connecté avec le cœur, le cerveau, le foie. Et donc, quand il fabrique l'urine avec ce qu'il y a dedans, il met exactement ce qu'il faut éliminer, c'est-à-dire tous les déchets bien sûr fabriqués, mais en même temps tout ce qui est en excès. Donc si par exemple vous mangez trop d'eau, de sel et de vitamines, il les mettra dans les urines.
Ah oui, Jimmy ?
C'est vrai qu'on parle beaucoup du cœur, du cerveau, mais quasiment jamais du rein. C'est un organe qui est mal connu et peut-être même négligé ?
Absolument. Et en fait, l'une des clés, c'est que je crois qu'il ne fait pas peur, en fait, le rein.
Il est petit déjà, il ressemble à un haricot.
Oui, il ressemble à un haricot, il pèse 150 grammes, c'est un dixième du poids du cerveau. Il mesure 11 cm, 12 cm, 80 fois moins que le côlon.
Pourtant, il y en a deux quand même.
Il y en a deux, absolument, mais même ça ne fait pas beaucoup. Et surtout, il ne fait pas peur parce qu'il se dégrade en silence. Il est gentil, le rein. Donc, vous pouvez perdre toute votre fonction rénale sans rien sentir. En dehors de la colique néphrétique que tout le monde connaît, ça fait pas mal, le rein. À l'inverse, dès que vous perdez vos clés, vous avez peur d'avoir l'Alzheimer. Dès que vous avez mal quelque part, vous avez peur d'avoir un infarctus du myocarde. Et on devrait beaucoup plus se préoccuper du rein, parce qu'en fait, c'est une sentinelle de la santé. Il reflète très exactement ce qui se passe à l'intérieur du corps.
Et même, encore une fois, on le néglige en disant « j'ai mal au rein », on ne parle même pas du rein, on dit « j'ai mal ». En fait, c'est quand on a mal au dos, on dit « j'ai mal au rein ».
Absolument. Alors, quand vous avez mal au rein, j'en vois
un par semaine. Même quand on parle de lui, ce n'est pas de lui qu'on parle.
Exactement. Si vous avez mal en bas du dos, c'est votre colonne vertébrale, vous allez voir le rhumatologue, le rein est beaucoup plus haut placé, il est juste sous les dernières côtes. Une nouvelle fois, en plus...
Rappelez-nous à quoi ça ressemble un rein et alors, où il se situe exactement,
c'est
juste la physiologie.
Comme un haricot, vous l'avez dit, 11 cm, 12 cm et 150 grammes. Il y en a deux. De part et d'autre de la colonne vertébrale, tout près de la colonne vertébrale, très en arrière et très haut. Si vous sentez vos côtes dans le dos, voilà, ils sont à cheval entre les dernières côtes et juste en dessous. Donc beaucoup plus haut que le bas de la colonne vertébrale et le sacrum.
Alors professeur, aujourd'hui avec vous, on parle des pouvoirs extraordinaires du rein. Mais d'abord, on va quand même commencer par ce qui est le plus connu. On va revenir sur ce filtre à pipi. Vous n'aimez pas qu'on dise ça, mais c'est ce qui fait quand même. Il nettoie notre sang et il l'envoie dans nos urines. C'est un filtre super puissant quand même.
Alors, il est extrêmement puissant. C'est l'organe le plus vascularisé, ce qui est logique, puisqu'il faut bien que le sang soit filtré. Et il va filtrer chaque jour 60 fois votre sang totalement.
C'est énorme.
Ce qu'il faut, parce que, en fait, les cellules produisent en permanence des déchets, donc il faut bien les enlever. Et puis, on mange et on boit. Et donc, il faut qu'il assure l'équilibre du corps. Le corps ne peut pas se permettre d'avoir une accumulation ni de déchets, ni même de nutriments, tu l'as pas besoin, de vitamines, de minéraux. Il faut pas avoir de carence, il faut pas avoir d'excès non plus. Donc, il met tout ça dans les urines.
Et notre sang, pour notre rein qui est tout petit, c'est du boulot, puisque ça représente combien ? La taille d'un fleuve, je crois, le sang pour le rein par rapport à sa taille à lui.
Ah, vous allez être surpris, nous avons 100 000 km de veines et d'artères dans le corps.
Ouais.
Donc c'est gigantesque en fait notre circulation dans le corps. Mais comme il est extrêmement bien organisé, il peut tout filtrer sans problème.
Jimmy ?
Et vous avez dit que c'était un filtre qui est ultra connecté aux autres organes. Et par exemple, c'est méconnu, mais il contrôle aussi la tension artérielle. Vous pouvez nous expliquer comment ?
Alors, il contrôle la pression artérielle de plusieurs façons. La première, c'est qu'il va enlever l'eau et le sel en trop. Si vous avez trop d'eau et de sel en trop dans vos artères, vous allez monter votre pression artérielle. Et c'est le rein qui va vous l'enlever en coordination avec cerveau et cœur. Le deuxième phénomène qui est extrêmement important, c'est qu'il produit une petite enzyme qui s'appelle la rénine.
Je ne savais même pas qu'il produisait quelque chose.
Il produit plein de choses et pas que la rénine. Et cette rénine va directement modifier l'état de vase de dilatation de vos artères. Donc avec ceci, plus la surrénale qu'il a au-dessus de la tête, là, ils ont un petit bonnet, les reins, qui s'appelle la surrénale, qui elle aussi produit des hormones, cortisol, aldostérone. Il va, par l'ensemble de ces mécanismes, être le facteur principal de contrôle de votre pression artérielle. Et si votre pression est élevée, il faut surveiller votre fonction rénale.
D'accord. Et je crois qu'il agit aussi sur nos os, sur la solidité de nos os. Comment
absolument,
il s'y prend pour ça ?
Absolument. Troisième pouvoir
incroyable,
extraordinaire,
non,
c'est la vitamine D, vous la connaissez tous. Elle est fabriquée dans la peau, sous l'action du soleil. Ne vous y mettez pas trop. Et le rein va activer la vitamine D. Et donc, si le rein ne l'active pas, elle ne marche pas.
Oui.
Et ce qui est fou, c'est que le rein qui agit comme sentinelle, il peut aussi avoir un impact sur notre cerveau. Un rein qui ne marche pas bien peut être un facteur de risque de démence.
Alors le rein, en fait, c'est un facteur de risque de toutes les autres maladies. Il y a plusieurs explications possibles. La première, tout simplement, c'est comme c'est un organe qui est en première ligne, puisqu'il est vascularisé, puisqu'il reçoit tout, eh bien, s'il est abîmé, c'est que les autres organes ont été abîmés. C'est assez logique. Si les artères du rein sont abîmées, les autres artères sont abîmées. Et le deuxième élément, c'est que si le rein ne fonctionne pas normalement, il va s'accumuler des choses, des déchets, certains sont toxiques, et qui vont aller directement abîmer le cerveau, le cœur et le reste.
On va y venir aux toxiques qu'on doit fuir pour prendre soin de nos reins, mais juste, quand on a un problème de rein, il y a des signes qui peuvent alerter, qui me disent « aïe, 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 mes reins, ils sont malades ».
Très silencieux le rein, vous pouvez perdre jusqu'à 90% de votre fonction rénale sans même vous en rendre compte. Donc il y a des situations où il faut aller vérifier votre rein. C'est par exemple si vous avez un diabète, si vous avez une hypertension artérielle. Alors vous achetez ça, vous allez regarder s'il y a de l'albumine dans vos urines et vous dosez quelque chose dans le sang qui s'appelle la créatinine. Mmh. Et pour les autres, si vous êtes en bonne santé, au-delà de 50 ans, vous le faites une fois par an ?
Et au moins on sait.
Et on sait.
Professeur Deray, on reste ensemble, on va poursuivre cette discussion dans quelques minutes.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Gilbert Deray, les chefs du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, professeur, pour savoir si nos reins fonctionnent bien, il y a un petit truc que vous donnez dans votre livre. Alors, c'est pas très ragoûtant comme ça, mais on dira à personne si vous le faites. Vous nous conseillez en fait de sentir notre urine et de la regarder, quoi. Pas de la boire, hein, mais
absolument.
Juste de la sentir. Pourquoi faire ?
Tous les jours, on va 3 fois, 4 fois, 5 fois aller faire pipi. Regardez-la et sentez-la. Alors, c'est plus la peine de mettre le doigt dedans. Elle a une couleur à peu près jaune clair. Si elle devient très foncée, ça veut dire que c'est concentré.
D'accord.
Et que donc, il faut boire plus, par exemple.
Et si elle sent fort aussi ?
Et alors, ouais. Ensuite, si elle sent très fort, il y a plein de possibilités. Ça peut être tout simplement des aliments comme les asperges, ou ça peut être parce que vous mangez des aliments qui contiennent de la méthionine, comme le porc. Et puis, ça peut être parce que vous avez une infection urinaire. Mmh. Donc, si ce ne sont pas les aliments, eh bien, faites un examen de vos urines, demandez à votre médecin, et s'il y a un germe, il vous traitera comme il faut.
Jimmy.
Et on est d'accord, on ne boit pas son urine. L'urinothérapie ne sert à rien.
Alors on va faire bref, pas d'urinothérapie, c'est totalement inefficace et c'est dangereux.
Pourquoi ?
C'est dangereux pour deux raisons. La première, c'est qu'il peut y avoir des bactéries dans vos urines et qui ne sont pas bonnes. Et la deuxième raison, c'est que le rein, c'est un organe intelligent. Tout ce qu'il a mis dans vos urines, il ne faut pas le reboire. Il y a évidemment les déchets, mais toutes les vitamines et nutriments qu'il a mis dedans, vous avez envie de les reprendre parce que vous croyez que c'est bon. Mais non, car si vous êtes en excès de vitamines ou de nutriments, c'est aussi autant un problème que si vous êtes en déficit. Donc ne buvez pas vos urines, c'est une auto-intoxication.
Alors on va parler des moyens pour garder des reins en pleine forme. Et d'abord, dans votre livre, vous dites que ça passe par l'activité physique. Comment ?
Alors, les reins, pour les garder en bonne forme, en fait, c'est simple, je vais vous le faire rapidement. Il faut savoir que si vous protégez les reins, vous protégez tout en fait, vous protégez tout l'organisme. Donc le programme, il est le suivant. 1. Activité physique, 30 minutes de marche rapide par jour, c'est classique, c'est vital. Deuxièmement, la nutrition, on va faire simple, c'est le régime méditerranéen. Vous regardez sur internet le programme.
De l'huile d'olive, des légumes et des fruits.
Il est extraordinairement efficace, pas que sur le rein, sur tous les organes. Ça devrait être une priorité au moins européenne. Troisièmement, il y a le problème des toxiques. Alors dans les toxiques, il y a bien sûr le tabac. Donc autour de cette table, c'est bien, personne ne fume.
Et puis, depuis 6 jours, hein, mais
voilà,
c'est ça.
Mais c'est bien, il faut continuer. Pour moi, j'ai la chance d'être non-fumeur. C'est un vrai scandale qu'on puisse vendre ce toxique mortel. Je voudrais citer le plastique. Le plastique a envahi notre planète et je voudrais en profiter pour vous dire que pour ce qui est des boissons dans les bouteilles en plastique, eh bien, il ne faut plus en boire. Il ne faut plus en boire pour les raisons suivantes. La première, c'est que ça coûte 200 à 500 fois plus cher que l'eau du robinet. La deuxième raison, c'est qu'il faut aller les chercher au supermarché. C'est lourd, outre que ça coûte de l'argent. La troisième, c'est qu'il faut la produire, la bouteille en plastique. Et pour fabriquer 1 litre d'eau minérale en plastique, il faut 3 à 4 litres d'eau. Et enfin, le plastique fuit dans la bouteille. Donc vous y trouverez du bisphénol, des phtalates et des microfibres de plastique. Et voici ce que ça donne. Si vous ne buvez que de l'eau en bouteille plastique, vous absorberez chaque semaine l'équivalent d'une carte de crédit en plastique.
Wow.
C'est colossal.
Donc l'eau du robinet, elle est très bien. Ça suffit pour nos reins, elle fait du bien.
Dans les pays développés, bien sûr, elle est parfaite.
D'accord. Et donc, vous parliez un petit peu du régime méditerranéen, mais dans l'assiette, pas trop de sel, quand même. Ça, c'est important. Hein.
Ça, c'est très important. La quantité de sel qu'on devrait manger, c'est 5 grammes par jour. En moyenne, nous sommes à 10. Et donc, je vous conseille, pas de salière et ne ressalez pas vos aliments, mettez des épices.
Jimmy ?
Pas de plastique, d'accord, pour l'eau. L'alimentation, on en a parlé. Mais est-ce qu'il faut manger bio ? Est-ce que bio, c'est finalement bien pour préserver son rein ?
Alors, en théorie, bio, c'est bien. Alors, pourquoi je dis en théorie ? Bon, d'abord, c'est censé être bien, puisque vous ne mettez pas de toxiques et de pesticides. Après, le bio va être ce qu'on va en faire. Si votre bio, il vient du cultivateur d'à côté, là, c'est sans doute bien. Mais s'il vient du bout du monde, où les règles ne sont pas les mêmes, mais du tout avec des pesticides autorisés, et deux, où vous avez des transports que vous ne contrôlez pas, j'ai le regret de vous dire que ça ne va pas. Donc, oui, pour la filière bio, mais une vraie et une belle. Donc, aliments de proximité, bio.
Vous dites aussi dans votre livre que, en gros, le plaisir, alors les câlins, la musique, ça fait du bien au rein. Alors ça, je ne comprends pas, par contre, le lien entre câlins et rein.
Continuons le programme. Donc, activité physique, régime méditerranéen et notre environnement. La musique, la lecture, les câlins avec ou sans sexualité, l'amour au sens large. Pourquoi c'est capital ? Parce que si vous appliquez tout ça, vous allez modifier ce qu'on appelle votre état épigénétique. Alors évidemment, c'est un peu compliqué à faire en 10 secondes. On va dire simplement que c'est l'état de fonctionnement de votre code génétique. En cascade, vous aurez une immunité qui sera meilleure. Vous aurez les bonnes hormones qui seront libérées. Vous aurez le cortisol qui va baisser. Et tout ça, ça va impacter vos artères et vos tissus et donc le rein.
Jimmy ?
On parle souvent du poisson comme un aliment noble, riche en oméga 3 avec du bon gras. Mais pour les reins, il ne faudrait pas trop en manger non plus ?
Alors, pour les reins, la discussion, c'est protéines. Si vous avez des reins qui fonctionnent normalement, et si vous faites régime méditerranéen, ça vous fera de la viande, allez, deux fois par semaine, du poisson deux fois par semaine, c'est parfait. Pour le poisson, soulignons quand même le problème des métaux lourds. Et malheureusement, il va falloir aussi que ces filières-là soient améliorées. Si vous avez une insuffisance rénale, alors il faut réduire vos apports en protéines à environ 0,8 g kilo jour. Voyez une nutritionniste ou une diététicienne pour ça.
Ça fait quoi, une fois par semaine, du coup, ou pas plus ?
Non, c'est plus global, parce qu'il n'y a pas que des protéines que dans le poisson, il y en a dans d'autres aliments. Et le nutritionniste vous dira exactement ce qu'il faut manger pour avoir ce taux de protéines.
Vous attirez aussi l'attention dans votre livre sur les médicaments qu'on ignore parfois, mais qui ont une toxicité sur le rein, desquels il faut se méfier, même si on en a besoin de ces médicaments parfois.
Il y a deux problématiques. La première, c'est que plus de 50% des médicaments sont éliminés par les reins, ce qui veut dire que si vos reins fonctionnent moins bien, ils vont s'accumuler. Donc, il faut faire attention à la posologie. Ça, c'est simple. La deuxième, c'est qu'effectivement, des médicaments sont toxiques. Alors, dans ceux qui sont couramment utilisés, je cite les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous savez, c'est Voltaren, Ibuprofène, tous ces médicaments qu'on prend comme ça, sans ordonnance, et qu'on présente trop fréquemment comme des antidouleurs et des antalgiques, mais qui sont des anti-inflammatoires. Faites attention à ça. Et les autres, le médecin saura ce qu'il faut faire.
Donc ceux-là, ils sont toxiques potentiellement pour le rein,
oui, c'est
si on en prend trop.
Si vous avez une insuffisance rénale, il faut les éviter.
Jimmy ?
Et vous l'avez dit, la seule fois où on peut avoir mal au niveau des reins, c'est lorsqu'on a un calcul, la colique néphrétique. Comment se forme l'apparition d'un calcul ?
Alors pour faire un calcul, il y a deux éléments possibles. La première, c'est que vous ayez une maladie génétique. On va la mettre de côté, c'est le moins fréquent, mais ça existe. C'est votre rein alors qu'il laisse passer trop de minéraux dans vos urines qui alors vont faire des cristaux et des cailloux. La deuxième, la plus fréquente, c'est après 50 ans, alors vous n'avez pas fait attention à vous, vous êtes un petit peu en surpoids, et vous mangez trop de choses indésirables et vous ne buvez pas assez d'eau. C'est le principe du pâté de sable. Hein. Et comme vous mangez n'importe quoi, des sucres, du sel, éventuellement trop de calcium, vous faites des pâtés dans votre rein. Si en plus vous ne buvez pas assez, alors à ce moment-là, votre sable, il va faire effectivement des cailloux dans vos reins.
Et pour éviter d'en avoir, parce que je crois que quand on a déjà eu une fois, on risque d'en avoir d'autres, il faut tout changer en fait.
Exactement. Hein. Eh bien écoutez, à ce moment-là, c'est relativement simple. Si c'est le calcul de la cinquantaine ou de la soixantaine, vous mettez en place le programme d'activité physique et nutritionnelle dont je viens de parler, qui est dans le livre. Mais si vous faites régime méditerranéen plus activité physique, vous n'aurez plus de lithiase.
Plus de tiasse, plus de cailloux.
Plus de cailloux, plus de douleur.
Merci beaucoup, professeur Deret, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur cet organe, le rein, qui n'est pas juste un rognon, comme certains le surnomment. Je rappelle que le titre de votre livre, Les pouvoirs extraordinaires du rein, paru chez Fayard. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on fait le point sur la vaccination contre la grippe, désormais autorisée en pharmacie. Un vrai plus pour la santé publique, vous allez voir. On en parle dans quelques minutes sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on fait le point sur la vaccination contre la grippe en pharmacie. Elle est autorisée depuis le 15 octobre. Comment se déroule cette piqûre dans l'officine? Les pharmaciens savent-ils aussi bien faire cet acte que les médecins ou les infirmières dans les mêmes conditions de sécurité? Quels sont les avantages? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Il me semble que c'est une nouveauté depuis cette année. Je trouve ça bien qu'effectivement les pharmaciens qui ont suivi une formation spéciale pour faire la vaccination le fassent. Ça cible plutôt les personnes âgées à partir de 65 ans.
Les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes qui ont une maladie importante du système immunitaire par exemple.
Je sais qu'aujourd'hui il est possible de se faire vacciner auprès des pharmaciens mais à partir de l'âge de 60 ans.
C'est juste un vaccin, donc effectivement est-ce qu'il est nécessaire d'aller voir un médecin pour se faire vacciner? Ce type de vaccin, je pense pas, donc oui, c'est peut-être une bonne méthode.
Ça peut permettre à plein de personnes d'y accéder beaucoup plus facilement.
Non, moi je suis un fervent défenseur des vaccins.
C'est pas fiable à 100%, on peut très bien avoir la grippe, mais les effets sont atténués.
J'imagine qu'il doit être rémunéré par la sécurité sociale.
Quelques dizaines d'euros, je pense. Après, est-ce que le pharmacien, il gagne beaucoup dans l'histoire? Je ne sais pas.
Ça nous fait, nous, une perte de chiffre d'affaires, en fait, pour les infirmiers libéraux. On fait les injections de vaccins, etc. Et le pharmacien, on voit pas ce qu'il vient faire là-dedans, en fait.
Alors Jimmy, cette année, la campagne de grippe, donc contre la grippe, pardon, a démarré depuis le 15 octobre. Et la nouveauté, c'est donc qu'on peut le faire en pharmacie. Mais est-ce que tous les pharmaciens peuvent le faire vraiment?
Alors en théorie, oui, tous peuvent le faire, mais il faut avoir fait une petite formation, que je vous rassure, pas très compliquée, pas très longue. Pour que les pharmaciens puissent faire ce geste, il faut qu'ils aient aménagé un espace de confidentialité pardon, dans leur pharmacie.
Ça peut être à l'arrière de l'officine ou...
Exactement, donc ça peut se faire. Discret. Et souvent, ils ont une petite affiche leur disant qu'ils le font. Donc demandez à votre pharmacien s'il le fait cette année.
D'accord. Et donc tout le monde peut aller se faire vacciner comme ça chez son pharmacien contre la grippe?
Oui, en théorie, le pharmacien propose la vaccination aux personnes pour lesquelles la vaccination est recommandée. C'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, les personnes qui ont une pathologie cardiaque, une pathologie respiratoire...
De
l'asthme, exactement.
Du diabète,
exactement.
Tout ça.
Tout ce qui fait qu'on peut décompenser, qu'on peut mourir de la grippe, parce que le risque d'une grippe, c'est d'en mourir.
Bien sûr.
Les personnes, les femmes enceintes. Mais finalement, on peut élargir cette vaccination à toute personne qui aurait une ordonnance, qui n'a pas forcément le temps d'aller voir son médecin traitant ou pour qui le médecin traitant est débordé. Et ils pourront vous vacciner moyennant quelques euros.
Alors moi, je peux témoigner parce que ça se passe très bien, cette vaccination en pharmacie. C'est comme ça que je me suis fait vacciner. Je n'ai pas attendu le docteur Jimmy Mohamed pour faire la piqûre. Et ça s'est très bien passé. Pour ceux que ça intéresse, quand même, combien ça coûte de se faire vacciner en pharmacie?
Alors, quand on a le petit bon de la sécurité...
Chez vous, c'est cher, hein, je sais. Alors,
ouais,
je préférais le faire à la pharmacie.
Mais c'est remboursé. Quand on a ce petit bon qui nous invite à aller nous faire vacciner, c'est gratuit. Donc, lorsqu'on a plus de 65 ans, pathologie cardiaque, comme on en a parlé, eh ben, vous ne payez pas.
Et ni, si jamais, vaccin, ni
le vaccin, ni l'injection.
D'accord.
En revanche, si vous ne faites pas partie de cette population comme vous, Mélanie, eh ben, vous allez voir le pharmacien avec une petite ordonnance. Il vous fait l'injection pour 6,30€ en métropole et 6,60€ dans les départements et les collectivités d'outre-mer. Donc, moins cher qu'une consultation chez les médecins traitants. Mmh. Et puis surtout, c'est bien plus rapide et on désengorge un petit peu les cabinets de médecine générale.
D'accord. Bon, juste pour terminer, Jimmy, vous êtes médecin. Il y en a qui disent on nous pique des attributions qu'on avait. Ça ne vous pose pas de problème à vous que les pharmaciens vaccinent?
L'objectif de la vaccination, c'est d'augmenter le nombre de personnes vaccinées. On parlera du problème des médecins à un autre moment. Il y en a et il y en a beaucoup. Mais là, l'objectif, c'est de vacciner les gens pour réduire la mortalité. N'oubliez pas que quand vous faites vacciner, vous protégez votre personne et puis l'entourage des gens qui ne pourraient pas se faire vacciner, comme des personnes immunodéprimées, des bébés, si vous travaillez dans des hôpitaux, dans des collectivités. Bref, c'est un message de santé publique. On oublie les querelles et les problèmes avec les médecins, même s'il y en a énormément.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Vous écoutez Mélanie Gomez, la suite des meilleurs moments de son rendez-vous. Et c'est le moment d'ouvrir notre deuxième dossier consacré à la transpiration. À quoi ça sert de suer? Pourquoi certaines personnes transpirent beaucoup et souffrent d'hyperhidrose? Quelles sont les solutions thérapeutiques? Réponse avec la dermatologue Laurence Netter.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Netter.
Bonjour Mélanie.
Alors, on va commencer par un petit peu de physiologie quand même, hein, parce que d'abord, bon, on transpire tous, on le sait, que ce soit excessif ou pas. Mais pourquoi on transpire? À quoi ça sert d'abord?
Alors, on transpire pour maintenir notre température à plus ou moins 37 degrés. L'homme a besoin d'avoir une température à ce niveau pour protéger le cerveau. Et la transpiration permet de maintenir cette température. Quand la température augmente, il y a un message qui va arriver à l'hypothalamus, c'est tout au centre du cerveau, et l'hypothalamus va commander le fonctionnement des glandes sudorales. Ces glandes sudorales vont sécréter de la sueur qui est à 99% faite d'eau. Cette sueur va se mettre à la surface de la peau et c'est l'évaporation de la sueur qui va diminuer la température.
Et ces glandes sudorales, on peut dire ça, oui. Il y en a partout sur le corps ?
Alors, on en a deux types. On a les glandes sudorales écrines, à peu près 4 millions, sur la surface de l'ensemble du corps. Essentiellement, le visage, les paumes et les mains, essentiellement de l'eau, et les glandes écrines que l'on a essentiellement au niveau des organes pileux, les organes génitaux et les aisselles, et qui sont responsables d'une sueur qui est plus épaisse, odorante et plus stimulée par le stress.
Jimmy ?
Et on a une transpiration qui est propre à chacun, unique, un peu comme les empreintes digitales ?
Alors surtout, la transpiration apocrine. Cette transpiration apocrine passe par le canal pilo-sébacé et contient des phéromones. Et quand les animaux se sentent les uns les autres, c'est pour s'accoupler dans la même espèce. C'est une carte d'identité. Mais ça, c'est surtout la transpiration apocrine, celle qui est très liée au stress, moins celle qui régule la température du corps.
Alors docteur, on va passer à la transpiration excessive, la transpiration pathologique, à ce qu'on appelle l'hyperhidrose. D'abord, bah, c'est quoi ? Parce que ça a un nom un peu compliqué, ça veut dire quoi souffrir d'hyperhidrose ?
Alors, l'hyperhidrose, c'est le fait de transpirer trop sans rapport avec la température extérieure. Il y a des personnes qui, l'hiver, arrivent au boulot complètement trempées. Il y a un gros rôle du stress, ça n'est pas uniquement la température extérieure. Ça peut être généralisé ou beaucoup plus fréquemment localisé aux aisselles, aux mains et aux pieds.
Et vous m'avez dit en préparant l'émission qu'il y a des cas vraiment assez dingues, des gens qui perdent des litres d'eau. Jusqu'à combien ça peut aller ?
Oh, je ne saurais pas le quantifier.
Vous m'avez dit jusqu'à 10 litres en préparant.
On peut voir des mains qui goûtent et des aisselles, surtout les aisselles, qui goûtent gros volume.
Jimmy ?
Et à partir de quand faut-il consulter en pensant qu'on a justement cette hyperhidrose ?
Alors, essentiellement, quand ça devient gênant, c'est important de consulter parce qu'il faut quand même éliminer ce qu'on appelle des hyperhidroses secondaires qui seraient dues soit à la prise de certains médicaments, soit à un diabète, soit une hyperthyroïdie. Mais ce sont des diagnostics qui sont assez faciles à faire. Quand l'hyperhidrose est généralisée et surtout nocturne également, il faut aller chercher derrière une cause.
Oui, parce que les aréoles que Mélanie peut avoir sur le bras, là,
ça c'est pas très grave.
Ça c'est dû au stress. Mais sans plus, c'est le stress, exactement.
Mais je pense que vous la stressez tous les jours.
C'est n'importe quoi. Mais l'hyperhidrose, donc secondaire. Et vous dites que cette question de la nuit, vous la posez, elle est très importante. Hein.
Très importante pour savoir si ça ne rentre pas dans le cadre d'une maladie, d'un diabète ou d'une hyperthyroïdie. Mais la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle une hyperhidrose primaire. C'est une maladie en soi. Et donc, on commence à traiter quand les patients sont gênés. C'est-à-dire qu'un patient qui ne peut jamais enlever sa veste quand il travaille, parce que dès qu'il a quelqu'un devant lui, il a des auréoles sous les bras. Une coiffeuse qui a toujours les mains trempées. Très rapidement, ça la gêne. Et aujourd'hui, on a des solutions. Donc, il faut absolument dire aux auditeurs qu'il faut qu'ils aillent consulter. On a des solutions à leur proposer.
On va en parler des solutions juste après. Mais il faut dire que c'est quand même très tabou comme pathologie encore. Vous envoyez des patients qui débarquent dans votre cabinet, parfois avec plusieurs années d'errance, ils ne savaient pas trop s'il y avait quelque chose contre ça. Il y a un retentissement psychologique qui est énorme.
Il y a un retentissement psychologique très important. Ce sont des patients qui s'habillent toujours en noir, qui ne desserrent pas les bras, qui ne serrent pas les mains, qui ne se mettent pas en nu-pied l'été. Il y a un retentissement important. C'est souvent en plus des patients qui sont dans le contrôle de leur image. Et plus ils sont dans le contrôle, plus ils transpirent. C'est-à-dire que ça vient des glandes apocrines qui sont essentiellement stimulées par le stress, les émotions, la concentration. Dès que inconsciemment ils sentent le moins d'humidité sous les bras ou le moindre microclimat chaud qui est naturel sous les bras, ça les stresse et ça y est, le cercle vicieux est en route et ils sont trempés.
Jimmy ?
Et qui faut-il consulter du coup si on pense avoir cette pathologie ?
Alors, c'est une question qui est un petit peu compliquée. Les médecins généralistes n'y connaissent pas grand-chose. Les endocrinologues, ils vont les faire un premier bilan pour voir s'il y a quelque chose derrière. Et aujourd'hui, il faut probablement consulter les dermatologues, les médecins esthétiques qui sont équipés des dernières technologies. C'est eux qui abordent le mieux ces problématiques.
Vous avez parlé des médicaments, juste rapidement, qui peuvent provoquer ça. C'est lesquels qui provoquent de la transpiration excessive, juste pour qu'on le sache ?
Les médicaments, ce sont les antidépresseurs, les anti-parkinsoniens, sont des médicaments
qui ont tendance à accélérer la transpiration.
Voilà, c'est ça. Qui stimulent l'hypothalamus, certains centres neurologiques, et c'est par le biais de l'hyperstimulation du cerveau qu'on transpire trop. Mais en général, les médecins qui les prescrivent
préviennent.
Attention, les parkinsoniens, on le sait, transpirent.
Docteur Netter, on n'en a pas terminé avec vous. On continue cette discussion dans quelques minutes.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, la dermatologue Laurence Netter. Alors à présent, on passe au traitement, évidemment, aux solutions à la disposition des patients qui souffrent donc de transpiration excessive. Notre sujet du jour, l'hyperhidrose. Et d'abord, on est d'accord, docteur, les déodorants, même les antitranspirants les plus puissants, ça ne fonctionne pas chez ces gens-là.
Non, quand on souffre vraiment d'hyperhidrose, le déodorant, ça ne fait que masquer l'odeur. L'antiperspirant, ça limite le flux de sueur. Mais quand on souffre d'hyperhidrose, c'est totalement dépassé. Il faut passer à des techniques médicales. Et aujourd'hui, on a des techniques médicales, donc il faut dire aux patients, venez consulter.
Alors justement, on va parler de la première qui est assez étonnante. Tout le monde ne connaît pas. Hein. Les injections de Botox, on les connaît pour les rides, mais ça marche très bien contre la transpiration excessive. C'est fou ça quand même. On se fait injecter du Botox sous les bras.
Sous les bras, ouais. Absolument. Alors le principe du Botox...
C'est le même Botox que pour les rides.
C'est
hein.
le même, c'est le même flacon, c'est exactement la même chose. C'est l'effet du produit qui va stopper la transmission neuromusculaire. Il n'y a pas de neurotransmetteurs qui arrivent et donc il n'y a pas de... C'est ce qu'on appelle un anticholinergique. Et donc
c'est une toxine qui va bloquer.
Exactement.
Ouais.
Alors l'avantage, ça marche chez tout le monde. On est complètement sec, quelle que soit la température. Il fait 60 degrés, vous êtes sec. L'inconvénient, c'est que ça coûte cher et que l'effet est réversible. Donc il faut le refaire tous les 6 mois.
Vous dites ça coûte cher, ça coûte combien? Il faut le refaire tous les 6 mois.
Voir, il faut minimum 2 flacons, ça c'est important.
Donc, ça fait quelques piqûres quand même. Hein.
Pardon ?
Ça fait quelques piqûres sous les bras quand même.
Oui, mais de toute façon, ce n'est pas la quantité de produit qui fait le nombre de piqûres. On pique à peu près tous les 2 cm. Ça dépend de la diffusion du produit.
D'accord.
Entre 400 et 500 euros à refaire tous les 6 mois.
Mais est-ce qu'il y a un risque avec des effets secondaires potentiels ?
Aucun. Aucun effet secondaire du Botox sous les bras. L'effet secondaire du Botox, c'est quand il diffuse sur un muscle et qu'il empêche la contraction musculaire.
Et qui va paralyser. Donc.
Voilà.
Mais là, il n'y a pas de risque
sous les bras, on fait des papules, on est vraiment très, 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 très superficiel. C'est très peu douloureux d'ailleurs. Aucun effet secondaire.
Alors, la deuxième technique, c'est une machine qui va chauffer, je crois, la zone sur laquelle on transpire de façon excessive. Donc là, en l'occurrence, on parle des aisselles. Cette machine, expliquez-nous comment ça fonctionne. Vous avez dit ça chauffe, c'est comme un micro-ondes.
Enfin, alors, machine, on peut citer le nom, je pense, parce qu'elle n'a pas de concurrent. C'est une machine qui est ce qu'on appelle agréée par la FDA, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu des études qui ont été faites. Ça s'appelle le MiraDry. C'est une machine qui va utiliser des ondes ultra courtes qui vont aller faire chauffer les glandes sudorales. Les glandes sudorales n'aiment pas du tout le chaud. Quand on a une cicatrice ou une brûlure, on n'a plus de poils et plus de glandes sudorales sur la peau.
Ah oui.
Donc on utilise cette capacité, cette propriété de la glande sudorale de se détruire à la chaleur. Et comme ce sont des glandes qui ne savent pas se multiplier, elles ne savent pas se régénérer, eh bien on traite par des micro-ondes. La glande sudorale s'élimine d'elle-même.
Elle est cramée, enfin, elle est brûlée.
Oui, c'est pas très joli ce que vous dites.
Non,
enfin, elle souffre un petit peu, elle s'abîme, elle fait ce qu'on appelle une apoptose, elle rentre en apoptose, elle s'autodétruit, elle est éliminée par les glandes lymphatiques. Et puis derrière, il n'y a pas de nouvelle glande qui va reprendre la place. En gros, 80% d'amélioration avec un traitement MiraDry.
Jimmy ?
Est-ce qu'il veut donc dire qu'on peut aussi traiter toutes les zones, c'est-à-dire les aisselles, les mains, les pieds, toutes zones qui seraient...
Avec le MiraDry ?
Oui.
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait traiter que les aisselles.
Avec cette technique-là.
Avec cette technique-là.
Et le Botox, dont on a parlé tout à l'heure, on peut le faire sur les mains, sur les pieds aussi.
Alors,
ou pas ?
Pour le MiraDry, l'AMM pour le torse et le thorax est prévu pour 2021. Donc, c'est prévu.
AMM,
autorisation
de mise
sur le marché. Donc, on pourra traiter ces zones-là en 2021. Le
Botox, pour l'instant,
on ne peut pas traiter les mains et les pieds avec le MiraDry. Et le Botox, on peut traiter les mains et les pieds, mais il y a des effets secondaires. D'abord, ça fait très mal quand on infiltre dans les mains et ça peut diminuer la force musculaire de façon temporaire. Mais bon, c'est vraiment là, du coup, en dernier recours. On a d'autres solutions.
D'accord,
bon,
on va en parler après, mais finissons quand même avec le MiraDry. Niveau douleur, quand vous faites la séance, quoi, ça dure combien de temps? Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'on fait une anesthésie? Je ne sais pas.
Alors, c'est une technique qui dure, une petite intervention qui se fait au cabinet du médecin équipé, qui dure 1 heure à peu près. On commence par faire une anesthésie parce que les glandes vont chauffer à 60 degrés. 60 degrés, c'est chaud.
Bah oui.
Donc on fait une anesthésie. L'anesthésie est ultra superficielle. On sent la première piqûre, mais pas plus qu'un vaccin. Et ensuite, on fait un calque qui va repérer les zones de traitement et on va passer la machine qui va délivrer ces fameuses ondes 20 secondes par point, suivi d'un système de refroidissement pour que la peau ne chauffe pas. L'eau de l'anesthésie protège les nerfs et les vaisseaux qui sont dessous, et le tout une heure et un quart. L'efficacité, elle est immédiate. Dès que vous sortez, vous avez...
Si je sors du cabinet et qu'il fait 40 degrés dehors, je ne vais pas retranspirer sous les bras.
Vous ne transpirerez pas sous les bras. On y a une petite perte de 20% au bout d'un mois. Et le résultat définitif, au bout de 2-3 mois. Et on est à peu près à 80% d'amélioration définitive.
Jimmy ? Oui, donc ça veut dire que contrairement au Botox, on n'est pas obligé de repasser par ça.
Exactement. Et
donc, vous avez parlé d'apoptose de la glande. Donc là, c'est terminé, on fait la séance.
On fait la séance.
Pour toute la vie, c'est terminé.
Exactement.
Ça a l'air miraculeux. Hein, quand même.
C'est très miraculeux. C'est surtout des personnes qui souffrent depuis très longtemps et qui ne connaissent pas cette technique. Le jour où ils connaissent cette technique...
C'est très cher, par contre, j'imagine.
Pour l'instant, c'est très cher.
Ce qui est miraculeux, en général, c'est cher. Hein, ouais.
Alors, pour revenir à votre définitif, les personnes qui ont une hyperhidrose réellement très importante, il arrive à peu près 8% des patients d'avoir besoin d'une deuxième séance. Mais quand on a besoin d'une deuxième séance, on attend 4 mois, on attend que les choses se stabilisent. Parce que de temps en temps, même s'il reste 20%, eh bien, on déconnecte, on y pense un petit peu moins. Et puis... on éprouve moins le besoin de faire cette deuxième séance.
Très cher, ça veut dire combien quand même ?
Aux alentours de 2000 euros.
Mais c'est définitif, alors que le Botox, c'est peut-être 500 euros l'injection.
Il faudra faire tous les 6 mois.
Et là, s'il faut faire tous les 6 mois, c'est toute la vie. Donc c'est un budget, mais bon.
C'est un budget, mais 2000 euros. C'est une technique. On est un petit peu en retard sur le développement par rapport aux États-Unis, où là, on a fait maintenant 160 000 traitements.
Pour terminer, juste rapidement, les mains, on peut faire quoi du coup ? Puisqu'on ne peut pas faire de Botox.
Les mains, c'est une autre technique qui s'appelle l'ionophorèse. C'est un appareil qu'il faut acheter, qui coûte aux alentours de 300-400 euros. Lors de la consultation, le dermatologue va vous donner les bonnes marques. C'est un petit appareil dans lequel qui est relié à un courant électrique. On plonge ses mains dans l'appareil. Pour avoir une efficacité qui est de l'ordre de 70-80%, il faut une dizaine de séances.
Qu'on
fait chez soi devant la télé. Les séances durent 10 minutes. Qu'on fait chez soi. Et on arrive donc à une amélioration de 70-80%. Et ensuite, quand l'amélioration est à peu près à ces niveaux-là, il faut chercher le rythme à laquelle on doit faire les séances pour maintenir ce résultat. Et c'est à peu près une séance par semaine.
Bon, grâce à vous, on a vu qu'il y avait des solutions pour tout. Merci beaucoup, docteur Netter, pour les aisselles, pour les bras, pour les mains, pour les pieds. On a des solutions aujourd'hui thérapeutiques. Merci d'être venu sur notre plateau.
Merci beaucoup, Mélanie.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, il y a la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des baisers. Pourquoi notamment les jeunes couples s'embrassent souvent plus goulûment que les autres. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle arrive dans ce studio, Catherine Blanc, pour la dernière séquence de l'émission. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, Catherine, on a une question de Claudia, 32 ans, je vous la lis. Mon mari et moi sommes ensemble depuis 7 ans et je réalise que nous ne faisons plus de baisers profonds, croisant un couple dans la rue, s'embrassant à pleine bouche. J'en ai fait la réflexion à mon mari qui n'a eu comme réponse que... ils viennent de se rencontrer. Je trouve ça un peu triste. Est-ce en effet le lot de tous les couples ? C'est vrai que c'est une bonne question, je me la suis posée déjà. Catherine, pour répondre à Claudia, est-ce que c'est vraiment inévitable le fait de moins s'embrasser au bout de 7 ans ou 15 ans de mariage comme moi ?
Alors, ce n'est pas inévitable, mais c'est malheureusement très fréquent. Tout simplement parce que quand on se rencontre, la première façon que nous avons de nous aborder et de nous pénétrer, ce sont d'abord les regards, ce sont les mots, et puis donc on essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, comment l'autre voit le monde, etc. Et puis la bouche. La bouche parce qu'on va s'approcher et puis on va mêler nos langues, mêler nos salives, s'inspirer au sens propre du terme. Et d'une certaine manière, le baiser est extrêmement important dans la sexualité parce que si vous y prenez, enfin, vous avez un peu d'attention, vous verrez que, au travers du baiser, vous savez comment l'autre va vous aborder, comment l'autre vous fera l'amour ensuite. C'est-à-dire que entre une bouche fermée, une bouche pas fermée, une bouche ouverte et trop et vorace et qui vous laisse peu d'espace, ou au contraire une bouche qui s'entrouve et s'ouvre à la mesure de votre propre bouche, de votre propre rythme, la façon que l'on a de se mordiller, de se lécher, s'embrasser, se découvrir. C'est déjà ce qui va se passer dans la sexualité. D'ailleurs, je vois que vous réussissez tous les deux.
Non, je trouve ça hyper poétique tout ce que vous racontez. J'ai des images de mes anciens premiers baisers, c'est vrai, voilà. Qui me reviennent. Pourquoi on arrête ces baisers goulus, en tout cas, on en fait moins. comme ça tout le temps quand on est en couple depuis longtemps, quoi.
Eh bien, parce que comme on est passé de l'autre côté, c'est-à-dire dans la sexualité, dans la pénétration, c'est comme si tout d'un coup, on ne se donnait plus l'occasion de refaire, de réinventer les choses. Donc du coup, on se donne un smack qui a même plus le goût du smack d'ailleurs. Il ne serait curieux que si c'était sur la voisine ou le voisin, mais dès lors que c'est sur la bouche ou sur la joue de son partenaire, on ne fait même plus attention. C'est bien dommage parce qu'on réduit de plus en plus le champ de la sexualité à nos sexes, alors que la sexualité, encore une fois, elle s'écrit bien avant d'en venir au coït.
Jimmy ?
Et son mari était peut-être un peu gêné de faire ça en public, peut-être qu'il n'a pas envie de montrer à tout le monde qu'il embrasse sa femme, c'est peut-être pas un truc qui se fait dehors, peut-être un peu plus à la maison.
Oui, on peut se dire aussi ça, c'est vrai, il y a des générations d'ailleurs, Brassens chantait les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. C'est vrai qu'il y a quelque chose où on se sent un peu seul au monde à ce moment-là et c'est très sexuel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'ose pas le faire en public pour certains d'entre nous. Ou au contraire, on le fait exagérément et de façon goulue et presque exhibitionniste parce que c'est très intime, un baiser. Donc oui, il n'a peut-être pas envie de le faire en public. Ceci étant, il me semble qu'il ne le fait même plus en privé.
Ouais.
Et ça, c'est bien dommage.
Mais elle a dit, on a vu ce jeune couple-là dans la rue qu'il faisait en public. Parce que c'est vrai, quand on est jeune, parfois on se rend moins compte qu'il y a du monde autour. On voit beaucoup des jeunes couples ou alors des jeunes tout court qui s'embrassent effectivement devant tout le monde. On se dit, oh, on est là, pourquoi ils ont ce besoin de se bisouter en public comme ça ?
Alors, c'est pas nécessairement en public, c'est que dès qu'ils se voient, ils s'embrassent parce que pour certains, ils ne sont même pas encore en train de faire l'amour et que c'est là qu'ils le font. Donc, ils sont vraiment dans. Ça peut durer des heures. Il y avait, outre les concours qu'il y avait, du plus long baiser.
Mais
il y
en a gagné, je crois.
Ne me mêlez pas à cette histoire. Laissez l'experte parler. Je vous en prie, Catherine. Vous avez cette tendance à interrompre les invités.
Pardon, c'est vrai.
Je trouve ça assez insupportable. Allez-y, Catherine, on vous donne la parole.
Faut s'être sauvé. Bon, donc je vous sauve. c'est vrai que le baiser, c'est extrêmement érotique, c'est extrêmement sensuel. Alors, ils le font en public parce que c'est une sorte d'abord, ils effacent le monde. Ils le font pas pour démontrer quoi que ce soit. Ils effacent complètement le monde. Au moment où ils s'embrassent, d'ailleurs, ils ferment les yeux, ils se sentent, ils se cherchent et le monde a disparu. Et ils peuvent y rester effectivement à se palucher, comme on dit, pendant des heures.
Jimmy ?
Et puis, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne désire plus sa femme, que le désir a changé ou a diminué. C'est juste qu'on consomme la relation d'une façon un peu différente. Elle évolue avec le temps. Et puis, ce n'est pas forcément un drame s'il n'y a plus ces baisers dont elle rêve, peut-être.
Bien sûr, ça n'est pas un drame. Simplement, c'est quand même, on peut se dire que ça peut être une alerte aussi. Parce qu'on peut aussi ne plus se donner la main, on peut ne plus se caresser la main, on peut ne plus se caresser tout court.
Niveau,
on ne peut plus s'embrasser. C'est-à-dire que c'est pas tellement que je le mets au même niveau, c'est qu'on finit par ne plus se regarder, se parler, s'émouvoir, se toucher, s'embrasser, se caresser. Et à un moment donné, on saute dessus. Et on s'étonne que même ça, à un moment donné, on ne trouve plus grand-chose à faire. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, parce que sinon, on va réduire la sexualité à quelque chose d'exclusivement mécanique. Donc, soyons vigilants, sans être obligés de
à nous embrasser gaiement.
Voilà, on peut de temps en temps, ça le rendra d'autant plus délicieux.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils. On se retrouve bien sûr demain pour les meilleurs moments de Sans Rendez-vous. Dans un instant, place à 2 heures d'évasion avec Philippe Gougler et son émission « Et si on partait ?» Une émission de voyage avec des expériences et des récits de voyage passionnants. On parlera aussi de la France avec des trésors de nos régions, de notre patrimoine, de notre gastronomie. Je vous souhaite une très belle émission.